aussi s'intéresser aux finances et à l'impact des finances sur la santé mondiale. Prochain point sur l'actualité dans 20 minutes.
Suno Assurance vous propose Priorité Santé, avec l'assurance d'être en de bonnes mains. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Au mois de décembre 2015, Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, a annoncé vouloir donner 99% de sa fortune à une fondation de bienfaisance. Depuis plusieurs années, la fondation Gates, elle, s'implique très fortement dans la santé mondiale. Les fondations Rockefeller et Ford s'étaient, elles aussi, impliquées dans les enjeux de santé. À titre d'exemple, le budget de la fondation Gates est supérieur à celui de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Alors, dans ce contexte, finalement, qui décide des grandes orientations de la santé dans le monde ? ONG, fondations philanthropiques, les acteurs du développement en santé sont nombreux. D'abord, comment coordonnent-ils leur action ? Quelle est la place des acteurs non étatiques et des fondations philanthropiques au sein de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé ? Ils sont trois autour de cette table pour en parler. Le professeur Dominique Kerwédan, qui est conseillère scientifique de Global Health à Sciences Po Paris, docteur en médecine, en épidémiologie. Son prochain livre qui va sortir au mois d'avril s'appelle « Santé mondiale, enjeux stratégiques, jeux diplomatiques ». C'est aux éditions presse de Sciences Po. Également avec nous, alors le professeur Dominique Kerwédan est à Bruxelles, en Belgique. Avec nous en studio, Oriane Guilbault, qui est docteur en sciences politiques et relations internationales. Elle est maître de conférence en sciences politiques à l'université Paris 8. Elle a publié « Business Partenaire, firmes privées et gouvernance mondiale de la santé ». C'est aux éditions presse de Sciences Po. Et également avec nous, Boris Martin, qui est ancien rédacteur en chef de la revue humanitaire « Un médecin du monde », rédacteur en chef actuel de la revue « Alternative humanitaire » et il a publié « L'adieu à l'humanitaire, les ONG au défi de l'offensive néolibérale ». C'est un livre qui est paru aux éditions Charles-Léopold Meyer. Et bien sûr, vous pouvez, si vous le souhaitez, nous appeler au 33 1 84 22 75 75. Professeur Dominique Kerwédan, Oriane Guilbault et Boris Martin, bonjour.
Bonjour.
Merci à tous les trois d'être bonjour. Là. Dominique Kerwédan, voilà, vous êtes à Bruxelles en Belgique. Merci beaucoup d'ailleurs à nos correspondants en Belgique qui nous permettent d'établir cette liaison et en l'occurrence à Quentin Dickinson. Dominique Kerwédan, la santé ne se résume pas à l'accès aux soins. C'est la première chose dont on voulait parler. Il y a d'autres éléments qui entrent en ligne de compte. Quels sont finalement justement ces déterminants de la santé ?
Oui, merci. Alors, les déterminants de la santé sont très, très nombreux et en effet, l'accès aux soins ne résout qu'en partie les problèmes. Ce qui conditionne notre santé, c'est d'abord le niveau d'éducation, le niveau de nutrition, d'alimentation, les conditions de vie, l'habitat, l'environnement, le bien-être psychologique. Donc, énormément de déterminants
le travail.
De la santé. Le travail, bien sûr, les conditions de travail. Et donc, ces déterminants sont très important à prendre en considération dans les politiques de santé qui, jusqu'à présent, se sont concentrées en priorité sur les systèmes curatifs de soins, un peu moins sur la prévention, mais trop sur le secteur santé lui-même. Et on voit aussi que les inégalités de santé sont un déterminant majeur, évidemment, de l'état de santé des populations, parce que nous savons que les inégalités de santé vont de pair avec les inégalités sociales, que les sociétés les plus égalitaires sont celles dont l'espérance de vie est la plus élevée et celles où les inégalités de santé sont les plus faibles, et que les populations ayant les meilleures conditions de vie sont celles qui connaissent les meilleurs états de santé. Donc, s'intéresser aux inégalités de santé, mais de manière prioritaire, c'est travailler à développer et à améliorer l'espérance de vie, réduire la mortalité, la morbidité, etc.
Donc, ne pas s'intéresser qu'aux maladies, et on va voir pourquoi on dit ça, parce qu'on sent bien que dans l'aide à la santé au niveau mondial, on a plutôt sectorisé par maladie, on va y revenir. Juste une autre question par rapport à ça, c'est quand même comment ces facteurs socio-économiques affectent la santé. Il y a, je dirais, un peu entre guillemets des pourcentages qui ont été des études qui ont essayé de voir comment ça se répartissait justement.
Oui, alors c'est très difficile de faire ces études et d'attribuer un pourcentage, mais il semble qu'il y ait un consensus pour dire que 20 à 25% du niveau de santé, du résultat en termes de santé des populations est attribuable justement à l'offre de services de santé elle-même. Et on voit par exemple que le facteur le plus puissant de la santé du bébé et de l'enfant est le niveau d'instruction de la mère. C'est pas l'accès aux soins, etc., qui évidemment est très très important, mais le niveau d'éducation et d'instruction de la mère va avoir un effet beaucoup plus important sur la santé du bébé et de l'enfant. Alors ces inégalités, justement, ces déterminants de santé sont très importants à décrire pour eux-mêmes, parce qu'ils sont reflets d'injustices énormes et que, comme l'a dit le rapport Marmotte sur les déterminants sociaux de la santé commandité par l'OMS il y a quelques années, ce sont ces injustices qui tuent à grande échelle et elles sont importantes à décrire en elles-mêmes, mais aussi elles représentent un risque pour la stabilité politique, et c'est ça qui nous intéresse aussi à analyser et déterminer une politique de santé en fonction des déterminants et des inégalités, c'est la stabilité politique. Donc travailler à développer les systèmes de santé à partir des déterminants sociaux, économiques, politiques de la santé, c'est travailler à réduire les injustices, consolider les institutions de l'État et par là maintenir une certaine stabilité. Donc vous voyez, l'objectif, il est beaucoup plus global, il est très important, y compris sur la stabilité nationale et régionale des États qui nous intéressent, notamment Afrique francophone et Sahel.
Et juste un dernier point là-dessus, ce qui est intéressant quand même, c'est de montrer que ces facteurs socio-économiques, finalement, ont plus d'importance que les facteurs individuels, qui certes en ont aussi, mais ne sont pas finalement aussi importants que celles de consommation de tabac et d'alcool. Donc peut-être qu'on pourrait un peu moins culpabiliser les gens sur leur état de santé.
Oui, enfin, il ne s'agit pas de les culpabiliser, il s'agit de voir est-ce qu'ils ont envie de vivre et les choix qu'ils veulent faire. Mais Ivan Illich, comme le disait Bertrand Livinec très justement dans sa note, parce que je voudrais quand même remercier Bertrand Livinec, il est avec nous même s'il n'est pas en studio, mais il a énormément contribué à la préparation de cette émission.
Et d'une note, alors du coup, pour préciser, professeur Dominique Kerbedan, et d'une note qui va être disponible sur notre site internet, que vous pourrez consulter, une note très complète qui fait un peu un récapitulatif de ce qu'on se dit aujourd'hui.
Voilà, tout à fait. Et donc, Ivan Illich, il y a déjà de nombreuses années, avait déjà montré dans son livre Némésis médical qu'on médicalisait absolument les questions qui étaient d'abord des questions sociales et politiques. Et la santé, c'est d'abord une question politique, de volonté politique des États africains et de nos États. Ça, c'est vraiment universel au niveau national et international. Et c'est un facteur, on le verra, très important par rapport justement à l'implication des fondations et la répartition des rôles et des mandats à ne pas confondre entre les institutions publiques, les États, les organisations interétatiques d'une part et les acteurs du secteur privé d'autre part qui ne peuvent rester que des partenaires et non pas des décideurs dans le domaine.
De la santé. Oriane Guibeau, vous voulez réagir par rapport à ce qui a été dit ou compléter ?
Oui, compléter ce qu'a dit Dominique Kerbedan est très juste et je crois que c'est important de souligner que les inégalités en fait elles sont cumulatives et donc que les inégalités en santé elles vont dépendre en fait d'inégalités économiques, sociales, politiques qui sont plus larges. Et donc la lutte contre les inégalités en santé, elle passe par un engagement en faveur de la justice sociale. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé en Europe à la fin du 19e siècle, en France, quand il y a une transition épidémiologique qui s'amorce en Europe. Les progrès dans la santé des gens, l'augmentation de l'espérance de vie, c'est pas seulement lié aux découvertes scientifiques, aux vaccins, etc. C'est également lié à la mise en place de réformes sanitaires et sociales, de l'amélioration des conditions de vie des populations les plus pauvres, de l'habitat, et également, bien évidemment, à la création de systèmes de sécurité sociale.
Qui ont aussi aidé. Il y a un chiffre que je trouve très intéressant, c'est l'espérance de vie aux États-Unis et à Cuba sont à peu près les mêmes depuis 1972. Dominique Kerbedan.
Oui, justement, avec des systèmes très très différents, où Cuba a privilégié donc la prévention, le dépistage précoce, des politiques de santé simples à la hauteur des revenus qu'ils avaient dans ce domaine, et on voit bien, et Cuba est depuis longtemps un exemple dans ce domaine de la santé et notamment de la formation des médecins et de la compétence des médecins cubains qui sont intervenus énormément en appui au système de santé d'Amérique latine, mais également en Afrique, beaucoup en Afrique de l'Ouest. Les médecins cubains ont contribué à la santé des populations africaines, donc à partir d'un modèle simple, mais il n'était pas alors politiquement correct de citer Cuba comme exemple. Et pourtant, oui, Cuba et le Costa Rica, comme le dit Bertrand Livinec, ont rattrapé l'espérance de vie américaine entre 60 et 72, grâce donc à des stratégies très simples, peu coûteuses, mais utilisant un meilleur équilibre des déterminants de la santé, éducation, hygiène, assainissement, soins de base. Mais j'insiste beaucoup sur cette question de formation des médecins, de personnel de santé, parce que on ne peut pas améliorer la santé, enfin en tout cas la qualité des services de santé si on n'a pas des bons médecins. La question du financement, elle est évidemment importante, mais elle est presque secondaire. Elle vient en appui, mais elle n'est pas centrale, elle n'est pas comme une priorité stratégique. La stratégie, c'est de former des personnels de santé d'abord, d'avoir des médecins, des chirurgiens, des obstétriciens, des compétences pour accueillir les malades.
Et quand on parle de Cuba, avec un système beaucoup moins inégalitaire que celui des États-Unis, parce que les plus pauvres aux États-Unis, comme d'ailleurs en France, ont une espérance de vie qui finalement rejoint celle du continent africain. On a l'impression, et je voulais vous donner un autre chiffre, hein, c'est qu'on estime que sur les 30 années gagnées en espérance de vie au cours du dernier siècle en Occident, 8 seulement seraient attribuables à l'action des services de santé, donc tout le reste finalement dépendrait justement de facteurs plutôt socio-économiques. On a l'impression, donc on a l'impression que tout ce qu'on vient de dire, que ces études finalement ne sont pas du tout utilisées, qu'on ne tient pas compte de ces déterminants de la santé et que du coup, si on prend au niveau mondial et particulièrement dans l'aide aux pays au développement, il n'y a pas d'action globale sur la santé, mais plutôt finalement des actions, je dirais maladie par maladie, Dominique Kerouédan.
Oui, tout à fait. Et malheureusement, parce qu'on a exporté justement dans ces pays des modèles très coûteux de la France, hein, par exemple dans le cadre de la coopération française, du financement du Fonds mondial pour le sida, la tuberculose et le paludisme. Donc il faut vraiment avoir en tête que le financement international et la coopération sanitaire européenne, française, mondiale a privilégié 3 maladies et quelques maladies infectieuses au travers du financement de la vaccination. Donc c'est toujours des maladies infectieuses. C'est beaucoup du curatif, beaucoup de questions d'accès aux médicaments, etc. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est que les personnes ne soient pas infectées par le VIH. C'est pas tellement... Oui, bien sûr, le médicament doit être accessible, mais la première des choses, c'est que les jeunes filles, les jeunes garçons ne soient pas infectés par le VIH, par exemple. Donc oui, un système trop centré sur le curatif, l'accès aux médicaments...
Et puis qui saucissonne la santé en pathologie, par pathologie.
Et voilà, et absolument. Donc, et qui a compartimenté la santé, c'est-à-dire à contourner ce système de santé mondiale et toutes ces initiatives mondiales qui ont émergé à la fin des années 90 avec l'Alliance Gavi pour l'immunisation, la vaccination, le Fonds mondial, UNITED, etc. D'abord, ne s'intéresse qu'à 3 maladies, presque, ou à quelques-unes. Et ensuite, leurs mécanismes de financement ont contourné les systèmes de santé, les États. Ont associé les États et la société civile, mais les mécanismes sont restés très verticaux. Et quoi qu'ils disent, ils n'ont pas quand même tellement réussi à rattraper le coche sur l'appui au système de santé, parce que ça leur a été beaucoup dit et beaucoup noté dans les évaluations, mais ça reste très, très partiel et très marginal. Et à contourner les systèmes de santé, on a vu les résultats. D'abord, il n'y a pas assez de médecins. Ensuite, donc les compétences techniques ne sont pas présentes. Et surtout, on affaiblit les capacités institutionnelles d'une politique sanitaire nationale pour prévenir ou voir venir une émergence d'une nouvelle maladie et pouvoir la maîtriser. Et on en a vu les résultats. Donc, par rapport à l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest,
qui a montré justement l'état des systèmes de santé. Mais Dominique Kerouédan, justement, je voudrais comprendre pourquoi ça a été fait. Par pathologie. Est-ce que, peut-être parce que c'était plus simple pour agir et parce que reconstruire des systèmes de santé, c'est nettement plus compliqué et plus coûteux, donc est-ce que c'est la première raison finalement du pragmatisme ou est-ce que c'est plutôt une deuxième raison parce que derrière, ça veut dire du médicament, donc de l'appui, je dirais, indirect à des entreprises, de grosses entreprises internationales. Quel était le but final ?
Non, le but au départ, en fait, de la création de ce fonds mondial SIDA, ça a été la perception par les Américains à la fin des années 90 du SIDA comme question de sécurité nationale et internationale. Alors, à partir du moment où ils ont décrété que c'était une question de sécurité, ils ont créé ce fonds mondial avec la France, les Européens et d'autres pour miser un maximum sur SIDA et ils ont ajouté la tuberculose, qui était la première des maladies opportunistes associées au SIDA, et le paludisme, qui était quand même une priorité très importante. Mais la question, c'est pas quels sont les besoins nationaux et en quoi les nationaux, donc les États et la société civile peuvent discuter des priorités qui sont les leurs, mais les États-Unis qui décrètent que le SIDA est une priorité de sécurité internationale et qui mettent les dispositifs qui vont avec. Et ensuite, effectivement, on a vu donc dans la mise en œuvre de ces dispositifs tous les intérêts américains et de l'industrie et du médicament.
Mais ça vient après. Mais le Fonds mondial, c'est quand même, vous citez beaucoup les États-Unis, mais c'est aussi beaucoup une initiative française, pas simplement américaine.
Oui,
c'est beaucoup la France qui a poussé à la création de ce fonds mondial.
C'est beaucoup la France, et là encore, je voudrais insister sur le fait que la question de la coopération internationale ou même de la santé en France n'est pas, et des Français, n'est pas assez une question de démocratie, de débattue dans la société. Il n'est pas normal, en dépit de tous les rapports d'évaluation qui ont été faits dans les 10-15 dernières années sur l'aide publique au développement française et sa contribution à la santé dans les pays pauvres, qu'en dernier ressort, et malgré même un rapport de la Cour des compte l'année dernière, ce soit le président de la République qui fasse l'arbitrage du financement et de la répartition du financement de l'aide au développement française entre le SIDA et les autres, entre l'institution du Fonds mondial et l'aide bilatérale, par exemple.
Ça devrait être le Parlement.
L'unanimité des rapports parlementaires a demandé une répartition équilibrée et donc de rétablir un équilibre en faveur de l'aide bilatérale française, qui est le seul instrument qui permette d'agir sur le renforcement des systèmes de santé dans leur ensemble, justement, en appui aux États africains, et de rééquilibrer, parce que en ce moment, c'est plus de 80% de l'aide de la coopération française allouée au Fonds mondial par rapport à l'aide bilatérale. Donc ça doit être rééquilibré absolument en écoutant. Enfin, il faut quand même que nos élus et la société soient écoutés. Ou alors, est-ce que si c'est une question du président de la République, et ça, quels que soient les présidents dans les 10-15 dernières années, ça a été la même chose. Alors oui, on a besoin de poser la question de la santé. Est-ce que c'est une question qui doit être débattue par le peuple, par les élus, par les États ensemble, et quelles sont les priorités des malades, des populations?
Et ça,
dans chaque pays, que ce soit là-bas.
Je voudrais faire réagir Auriane Guilbeault et Boris Martin. Auriane Guilbeault.
Oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a parfois l'impression qu'on redécouvre aujourd'hui des questions qu'on s'est déjà posées à la fin des années 70. Parce que les organisations sanitaires internationales comme l'OMS ou ses prédécesseuses ont souvent effectivement eu tendance à se focaliser sur la lutte contre les épidémies, des maladies, des programmes verticaux. Les États-Unis dans les années 60 avec l'OMS par exemple ont financé un grand programme de lutte contre le paludisme. Donc on était déjà dans ces
par pathologie.
Mais justement à la fin des années 70 avec les pays en développement qui réclamer une prise en compte de leurs besoins au sein des Nations Unies. L'OMS avait élaboré une stratégie des soins de santé primaires avec une déclaration d'Alma-Ata qui a fait un peu date et qui marquait déjà en fait la volonté de s'intéresser plus aux déterminants de la santé et au système de santé avec alors l'idée à l'époque c'était d'avoir des travailleurs sanitaires communautaires, enfin voilà, mais prendre en compte une définition plus large de la santé. Et puis ensuite on a eu, avec comme l'a dit Dominique Arouedan, le SIDA, etc., un retour en fait de ces programmes verticaux par maladie, et on voit toutes les limites
Mais alors,
Juste les approches verticales sont très horizontales sont très difficiles à mettre en compte parce qu'on voit bien que il y a tout de plein d'inégalités, des systèmes politiques, des questions de justice qui sont des questions sensibles
et qui sont des questions effectivement plus compliquées. On y revient dans 3 minutes juste après les informations. On va justement voir comment sont financés tous ces programmes d'aide aux pays en développement. Un téléphone si vous souhaitez participer, le 33 1 84 22 75 75. Et vous, on vous retrouve dans une demi-heure pour un prochain point sur l'actualité.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons de la place des acteurs non étatiques et des fondations philanthropiques dans la santé mondiale. On en parle avec le professeur Dominique Kerouédan, qui est conseillère scientifique de la spécialisation Global Health à Sciences Po Paris, Oriane Guilbault, qui est maître de conférence à l'Université Paris 8, et Boris Martin, qui est rédacteur en chef de la revue Alternative Humanitaire. Dans la première partie de l'émission, on a vu que la santé ne se résume pas à l'accès aux soins. D'autres éléments entrent en ligne de compte, le niveau de revenu, l'éducation, les conditions de travail, l'environnement. On a aussi vu que les actions finalement en santé mondiale s'étaient plutôt polarisées par pathologie au lieu, je dirais, de reconstruire des systèmes de santé dans les pays en développement. Vous aviez envie de réagir à tout ce qui a été dit, Boris Martin.
Oui, alors sans être absolument spécialiste de la question, contrairement à Oriane et Dominique, vous avez juste rapidement évoqué Ebola, mais effectivement, là, ça a été l'émergence, pour le coup, d'une maladie qui a révélé l'inégalité des systèmes de santé. Et on a vu que c'était presque, d'une manière caricaturale, l'épidémie qu'on attendait ou dont on se disait qu'elle pourrait justement amener à l'effondrement des systèmes de santé.
Et à ça... montrer à quel point ces systèmes de santé sont dans des états catastrophiques.
Absolument, absolument. Et la situation qui a amené à une focalisation sur Ebola, justifié évidemment, mais qui a amené aussi à délaisser toutes les autres maladies type paludisme, qui font même beaucoup plus de victimes qu'Ebola, les maladies chroniques. Donc on voit quand un système totalement effondré, les conséquences que ça peut avoir.
Et d'ailleurs, là-dessus, on n'a toujours pas de chiffre du combien de personnes supplémentaires sont décédées du paludisme ou de maladies
Absolument.
Chroniques à cause de ce non-accès aux soins du Ebola. On n'a pas de chiffre encore là-dessus.
Oui, oui. Et je ne sais pas Pourtant, si Oriane sera... ou Dominique ont des chiffres. Je pense qu'ils vont arriver petit à petit.
Mais ce sera intéressant.
Ça sera intéressant de voir effectivement les dommages collatéraux, pour reprendre une expression dans d'autres circonstances.
Et Boris Martin, vous avez l'impression que justement, du coup, cette épidémie d'Ebola va permettre une action plus sur les systèmes de santé et sortir de ce système par pathologie ou pas, hein?
J'ai l'impression en tout cas, Ebola, au-delà du drame que ça a été, du drame individuel que ça a provoqué, ça a aussi provoqué un électrochoc, j'ai l'impression, au niveau des décideurs, au niveau de la santé mondiale, le rôle des ONG qui a vraiment été d'interpeller tout le système, hein. On a vu le retard à l'allumage de l'OMS, qui est quand même responsable de la santé mondiale.
Et pourtant, MSF tirait la sonnette d'alarme depuis un petit
Et
moment.
Et pourtant, MSF tirait la sonnette d'alarme depuis longtemps, absolument. Et c'est vrai que c'est l'action conjuguée. Alors, l'OMS, quand même, a fini par intervenir. Mais c'est vrai que ce sont des ONG comme Médecins Sans Frontières, mais d'autres, Médecins du Monde et d'autres ONG internationales, qui, d'une certaine manière, ont joué leur rôle de plaidoyer, sont entrés dans les marges, ont essayé de combler ces lacunes du système international.
Dominique Kerouédan, on a bien dit que finalement l'action mondiale en santé pour l'instant elle était beaucoup par pathologie, alors à travers le Fonds mondial, vous l'avez cité, hein, de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, à travers aussi Gavi, l'alliance pour les vaccins et la vaccination. Comment sont financés des organismes comme cela, alors en partie par les États, mais aussi par des fondations privées, dont la fondation Gates?
Oui, absolument. Le financement d'ailleurs de la création de Gavi était en majeure partie provenant de la fondation Gates.
Mais ce que, et ce de que l'industrie pharmaceutique.
Et de l'industrie pharmaceutique, oui, parce qu'ils ont été appelés à s'associer pour être incités du fait de financement disponible à produire des médicaments et
vaccins
en plus grande quantité.
Cher.
Et des vaccins moins chers, voilà. Et mais la question, pour revenir sur les dommages collatéraux, ce serait intéressant d'avoir une étude aussi sur l'importance de la mortalité des mères et des enfants, des femmes enceintes et des enfants, qui a dû être aussi très importante en plus des autres pathologies.
Dû à l'épidémie d'Ebola, vous revenez à ce qu'on disait juste avant.
Voilà. Et concernant l'épidémie d'Ebola, elle reflète une claque justement de la part des systèmes de santé, enfin de la situation locale envers les systèmes de financement qui ont été mis en place dans les 15 dernières années, parce que on voit bien le paradoxe auquel on est confronté, c'est-à-dire que la Fondation Gates et les Américains s'emparent de la santé pour assurer la sécurité internationale, la sécurité sanitaire internationale, et continuent de le faire en plaçant leur personnel au niveau de la stratégie de l'OMS et dans le bureau de la directrice de l'OMS, Margaret Chan, en ce moment, mais à contourner les systèmes de santé, ils ont contribué à affaiblir les États et les institutions nationales, et à propos desquels on voit avec Serge Mikhailov et son livre intitulé Afghanistan que ces États étaient déjà affaiblis du point de vue de la défense, de l'état de droit, de leur fonction régalienne. Donc c'est pas inintéressant de faire le lien entre l'affaiblissement des institutions, des secteurs sociaux des États et leur affaiblissement en général, et donc finalement on se retrouve aujourd'hui à peut-être, en tout cas une étude serait intéressante à mener, de voir en quoi c'est tous ces financements qui ont privilégié le non étatique ont contribué aussi à affaiblir les États de manière beaucoup plus générale, et finalement à augmenter, contribuer à augmenter l'insécurité dans cette région, et à vouloir s'emparer de la sécurité sanitaire, se sont trouvés à contribuer à l'insécurité peut-être de la région. Donc en tout cas, ce serait
ça, c'est un des aspects. Oui. Et vous êtes aussi inquiète devant la montée de ce qu'on appelle le philanthrocapitalisme, c'est-à-dire la philanthropie en lien étroit avec les industries. Pourquoi ça vous inquiète ?
Oui, alors d'abord, philanthrocapitalisme, on a intitulé cet article avec Bertrand Livinec, donc article qui est paru sur le site des convivialistes là en début janvier, et du journal du MOS, grâce à Alain Caillé que nous remercions. Et c'est une sorte d'oxymore, le philanthrocapitalisme, pour nous, parce que philanthropie grec, ça veut dire aimer les hommes, ça veut dire j'aime les hommes, hein, philanthrope. Un philanthrope, c'est celui qui aime les hommes. Et capitalisme, quand on voit le régime de la mondialisation, qui est celui qui a généré le plus d'inégalités et d'iniquités en 40 ans de mondialisation, et a entravé le développement social et économique de tous ces pays, on ne peut pas, et que donc sous couvert de bienfaisance et de charité, les grandes fondations dirigées par des figures du secteur privé comme Bill Gates appelaient donc à la fin des années 90 à être des partenaires des États, des organisations internationales, de l'OMS, des partenaires financiers, donc en faveur de la santé des pays pauvres, sont devenus aujourd'hui les dirigeants. Et ça pose problème parce que ça pose deux questions, de voir le secteur privé ou les acteurs non étatiques devenir des dirigeants de la santé mondiale. Est-ce légitime ? Non. Non, du fait de tous les conflits d'intérêts.
Je vous interromps là-dessus. La Fondation Gates s'en défend. Hein. Il y a deux ans, j'avais interviewé Bill Gates sur cette question-là en disant « Mais qui décide de la santé dans le monde aujourd'hui ?» Et il dit « Mais c'est pas moi qui fais les guidelines de l'OMS. Moi, je ne fais que financer. » Mais vous, vous dites « Non, à partir du moment où cette finance, elle est importante, c'est pas tout à fait vrai. » Qu'est-ce que vous dites exactement par rapport à ça ?
Je dis que ça a évolué. C'est-à-dire qu'au départ, ils ont été effectivement des partenaires à leur place pour contribuer au financement, et qu'aujourd'hui ils interviennent dans les stratégies, mais ce n'est pas à un
secteur. Ça veut dire que la Fondation Gates, elle est présente à l'OMS.
Oui, elle est présente à l'OMS, elle est en train de mettre donc ses conseillers dans le bureau de la directrice générale de l'OMS et au bureau de la stratégie. Donc on peut pas être plus précis quand on veut faire de la stratégie. Donc ils sont impliqués dans la stratégie, ils sont impliqués du fait des choix qu'ils font avec l'argent qu'ils ont. Si Gates a beaucoup d'argent et décide de le placer sur les maladies infectieuses,
je vais dire début d'émission, hein, le budget de la Fondation Gates en santé est plus important que celui de l'OMS.
Oui, alors c'est pas un problème d'avoir un partenaire financier, au contraire. Ce que nous contestons, quelques-uns d'entre nous, c'est le fait qu'ils commencent à intervenir dans des politiques en tant que décisionnaires, en tant qu'influence des politiques. Non, d'une part, c'est pas légitime. Les politiques, elles doivent être décidées par les populations, par les parlements, par les États avec les populations, par les institutions internationales qui sont des inter-États. Et d'autre part, ce n'est pas efficace. On l'a vu donc à l'occasion de l'épidémie d'Ebola, mais ce n'est pas efficace parce que...
Et vous n'avez pas l'impression de temps en temps que la Fondation Gates, elle est finalement plus efficace que l'OMS ?
Non, je trouve pas que la Fondation Gates soit plus efficace parce que les priorités ne sont que la prévention des maladies infectieuses ou la prise en charge de maladies infectieuses, mais au travers de mécanismes mondiaux et parallèles qui n'ont pas servi les États, qui ont contribué à affaiblir les institutions, les systèmes de santé en général. Donc, ça n'est pas efficace. Je pense qu'à un moment donné, il faut quand même se poser la question, justement, est-ce que la contribution des acteurs non étatiques a apporté quelque chose, dans quelle mesure, et là, la vraie question, c'est que pensent les États africains, quelles sont leurs priorités, est-ce que l'épidémie d'Ebola les a fait réagir en termes d'affirmer la santé comme une question de volonté politique et une question prioritaire et de mettre en œuvre des financements un peu plus importants que ce qu'ils sont en train d'allouer depuis des années, c'est-à-dire moins de 10% des budgets nationaux. Donc là aussi, je pense qu'il doit y avoir une réaction des États africains par rapport à leur mandat, revenir aux fondamentaux. C'est-à-dire
mais Dominique Kerwédan, vous le savez bien, les États n'osent pas se prononcer, les États africains entre autres, on pense à ça dans les pays en développement, n'osent pas se prononcer là-dessus parce que de fait, ils reçoivent des sommes importantes de la Fondation Gates. Et je peux vous dire, on a essayé d'avoir un ministre de la Santé aujourd'hui dans l'émission, mais on n'en a pas eu, aucun n'était disponible. Et quand aucun n'est disponible, on sait très bien que c'est juste qu'ils n'avaient pas envie de se prononcer sur la question.
Oui, alors les États africains ont depuis longtemps, mais ça c'est le système international qui l'a cherché aussi, ont confié la santé et son financement à l'extérieur. À l'aide humanitaire, aux institutions internationales, aux coopérations gouvernementales, etc. C'est quelque chose qui relève de la charité et on va profiter de l'aide extérieure pour s'en occuper. Non, la santé, le social, c'est une question de sécurité, oui, certainement, mais qui relève de l'État souverain. On doit revenir au fondement de la mission de l'État souverain,
qui est donc à...
Et qui a émergé. Donc c'est à la fois une question de démocratie sanitaire et une question de fondement de l'État souverain, des prérogatives des politiques publiques et de l'État, tel qu'il a été créé donc au XVIe et XVIIe siècle
Je vous interromps parce que je voudrais quand même donner la parole aux autres autour de cette table. Et c'est une question de droit, ce que vous essayez de dire aussi, et pas de charité. Boris Martin, ce qui est intéressant, vous avez plus particulièrement travaillé sur la question des ONG, des organisations non gouvernementales, c'est que du coup, comme il y en a beaucoup qui œuvrent dans le domaine de la santé, se pose aussi la question du comment sont financées finalement ces ONG.
Oui.
Parce qu'on va retrouver ces fondations.
Absolument. Et ça, c'est... Alors, justement, pour rebondir, prolonger un petit peu ce que disait Dominique, c'est vrai que ce terme de philanthrocapitalisme-là qui est né, Dominique évoquait en disant c'est un oxymore, on pourrait presque parler d'humanitarocapitalisme.
On pourrait dire la même chose pour l'humanitaire.
Voilà, mais qui serait peut-être finalement l'inverse. Là, c'est-à-dire que ça deviendrait presque un pléonasme, désormais, à savoir qu'il y a vraiment une mise en place d'un écosystème néolibéral autour des ONG. C'est très très avancé dans les ONG anglo-saxonnes. Moi, mon livre, je l'ai surtout axé sur les ONG françaises, pour dire, non pas pour jouer la ritournelle du village gaulois un petit peu qui veut se protéger de ses influences, mais c'est vrai qu'il y a une histoire qui a fait qu'on a un petit peu plus résisté jusqu'à présent
Tout à fait. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce que vous racontez dans votre livre, c'est que finalement, on s'aperçoit depuis un petit moment que les ONG sont aussi, entre guillemets, le bras armé des États. Donc finalement, une façon pour les États d'influencer sur le terrain dans les pays en développement.
Oui. C'est-à-dire
pas simplement les fondations privées.
Alors bon, je rectifierais juste sur l'expression bras armé. Non, justement, elles sont le bras. Si elles sont un bras, elles sont pas armées. Elles sont pas encore armées. Et j'espère que ça va durer. En tout cas, oui. En fait, ce que j'essayais de démontrer dans le livre, c'est que le fait que les ONG puissent, de manière systémique, de manière instrumentale, être des alliés entre guillemets des États, en tout cas de fait, ça fait longtemps. Mmh. C'est-à-dire que ça fait bien déjà depuis les années 90. Hein, en gros, les ONG françaises dans les années 70-80, elles se sont développées en marge de l'État. Dans les années 90, l'État est revenu sur la scène humanitaire
pour les financer,
pour d'une certaine manière
influencer aussi ce qu'elles font du coup de fait
aussi ce qu'elles faisaient et ce qu'on observe. Donc ça aboutit déjà à beaucoup de conséquences graves, à savoir une confusion. On a parlé de l'humanitaro de l'humanitaire d'État et là ce qu'on observe désormais, c'est effectivement une arrivée des acteurs privés, des fondations d'entreprises. Donc là c'est le deuxième effet après l'arrivée des États, c'est la
Et on va y revenir. Dominique Kerouédan, il y a un autre problème qui se pose dans toutes ces fondations. Finalement, c'est la question de leur placement financier.
Oui, alors, je sais pas. Leur placement financier, oui. Et puis la réduction de fiscalité dont ils bénéficient au niveau national de leur pays.
Et à la limite, il faudrait presque mieux qu'ils paient leurs impôts et que les États donnent cet argent en décidant comment ça est utilisé. Alors, j'ai l'impression absolument. Que Oriane Guibaud veut réagir là-dessus.
Oui, sur le manque de pluralité aussi du financement de la santé que ça va poser, parce qu'on a parlé de la fondation Gates qui, effectivement, a beaucoup d'argent et met beaucoup d'argent dans la santé, notamment pour développer des dispositifs innovants, des approches innovantes pour les maladies. C'est ça, quand même, la grande contribution de la Fondation Gates. Et effectivement, ça serait très bien si on pouvait trouver un vaccin contre le paludisme, contre le sida, etc. Mais c'est aussi une approche qui a des limites. Et on l'a vu, pour revenir à l'épidémie d'Ebola, dès qu'il s'agit de gérer une maladie pour laquelle c'est en fait le fonctionnement entier du système de santé qui est en jeu, là, il y a
Mais la Fondation Gates, c'est beaucoup la question de la mortalité maternelle, et on sait bien que cette mortalité maternelle est liée au système de santé. Donc, en fait, la Fondation Gates, elle est aussi en train de s'intéresser au système de santé.
Oui, elle a pris en compte ses critiques et elle a développé ses actions. Et ce qui est intéressant et marquant dans la Fondation Gates, c'est qu'elle finance. Justement, elle est capable de se déployer à peu près dans tous les domaines et dans toutes les dans toutes les questions et de financer dès qu'il y a un programme de santé, limite la Fondation Gates peut intervenir. Et ça pose des questions quand même de démocratie, de pluralité, d'avoir un, c'est important quand même d'avoir un débat pour que l'approche la plus appropriée puisse émerger.
C'est un acteur majeur.
Oui.
Mais
Kerouédan.
Ça doit rester un acteur à sa place de partenaire et non pas s'emparer du pouvoir ni de la décision qui relève d'une question de démocratie nationale.
Je redis qu'ils s'en défendent de prendre le pouvoir. Vous vouliez réagir, Boris Martin ?
Oui, c'est ça. En fait, moi aussi, ce que j'essaie de défendre dans mon livre, c'est pas de pas avoir une lecture simpliste en disant il y a les purs, les impurs, les bons, les méchants, que les entreprises...
Les bons donateurs, les mauvais donateurs.
Exactement, que les entreprises ou leurs fondations sont l'incarnation du diable. La vraie difficulté, effectivement, aujourd'hui, c'est que comme les fondations, qu'elles soient philanthropiques pures, liées à des familles, à des noms ou des fondations d'entreprise, c'est qu'effectivement, elles investissent réellement. Comment dire, elles veulent jouer, elles veulent avoir une influence.
Oui, et pas simplement
elles
communiquer sur leur
le système, voilà.
Pas simplement communiquer
exactement.
Sur leur don.
Et c'est comment se positionnent les autres acteurs, par exemple les ONG, en disant on veut bien être financé par vous, mais à nous aussi de donner des limites hautes et basses, et attention à ne pas capter le label humanitaire en l'occurrence.
Voilà. Et vous êtes inquiet sur plusieurs choses que je voudrais voir avec vous. D'abord sur un accord qui a été conclu par le ministère des Affaires étrangères en août 2014 avec 5 multinationales françaises qui prévoient finalement une mise en synergie des moyens respectifs en cas de crise humanitaire. Mais pourquoi ça vous inquiète?
Eh ben, ça m'inquiète parce que c'est vrai que c'est toujours en fait la ligne conductrice un petit peu de mon livre, c'est-à-dire que pour de bonnes raisons, on peut arriver à de mauvaises solutions. Effectivement, c'est toujours présenté comme une.
C'est plutôt bien, il y a de l'argent
qui
arrive.
C'est plutôt bien, on dit il y a de l'argent qui arrive. Simplement là, ce qui s'est passé, c'est que. Effectivement, c'est une idée d'échange, de mise en synergie. Là où il y a un problème, c'est lorsque l'ancien ministre, en fait, désormais Laurent Fabius, dit aux entreprises, nos ambassadeurs sont à votre disposition, et que on est là dans une logique de diplomatie économique et humanitaire. Et donc,
c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a en échange de l'argent dans les pays en termes de contrats qui vont être signés. Et vous êtes aussi inquiet là sur le fait que du rôle de l'Agence française de développement dans la NASAN, hein, qui est la nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition, qui amène finalement vous dites à financer des multinationales comme Monsanto dans la lutte contre la faim en Afrique. Je ne comprends pas très bien expliquer.
Oui, absolument, mais c'est presque caricatural cette histoire de la nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition, donc la NASAN, qui a été créée par le G8 en 2012 et toujours évidemment pour de bonnes raisons, qui est de réduire la pauvreté, voilà, en Afrique subsaharienne. L'idée, c'est d'établir un partenariat entre les États africains, les pays du G8 et des entreprises pour apporter du matériel, de l'expertise et des infrastructures. Mais ce qu'on observe, c'est que les entreprises concernées, alors il y a Monsanto, par exemple, elles sont surtout expertes dans le négoce et non pas dans la production agricole. Donc on se dit, mais qu'est-ce qu'elles viennent faire dans cette affaire-là? Pour participer au dispositif, les États africains, ils doivent engager des réformes pour libéraliser les échanges au profit des entreprises occidentales. Donc par exemple, en Côte d'Ivoire, les entreprises occidentales, multinationales, vont être exonérées de l'impôt sur le revenu pendant 5 à 15 ans. On s'est aperçu qu'effectivement l'AFD finançait pour près de 67 millions d'euros via Proparco, en fait sa filiale, une entreprise kényane qui était basée à Maurice, donc un paradis fiscal, et que l'action de cette
on en revient à toute la question de la fiscalisation finalement qui est inquiétante et d'une oui. certaine logique. Dernier point aussi qui vous inquiète, c'est les Humanitarian Impact Bonds qui ont fait leur apparition. C'est quoi exactement?
Alors les Humanitarian Impact Bonds, c'est très intéressant. Ce sont en fait des mécanismes tout simplement financier qui consiste à faire financer une action par un investisseur privé. Hein. Donc par exemple un État qui a décidé de travailler sur la réinsertion par exemple des prisonniers va aller voir un investisseur privé. L'investisseur privé va dire je peux me charger de cette cause, je vais lever des fonds sur les marchés financiers, je vais choisir l'association qui va être le prestataire, donc l'exécutant.
Donc il apporte de l'argent. Voilà. Et qu'est-ce qui vous inquiète là-dedans?
Qui va être remboursé avec un taux d'intérêt à 13%. Donc il y a effectivement cette question-là. Mais on pourrait se dire, mais encore une fois, très bien.
Soyons pragmatiques, on a
besoin
d'argent.
Soyons pragmatiques. La différence, le problème, c'est qu'on est en train de casser aussi la logique de les associations comme lien avec une société civile, militante, et qu'on n'est plus dans la subvention, mais de la commande. Hein, et que là, en fait, ce sont à la fois les États et des entreprises qui vont, d'une certaine manière, commander les associations, les prestariser, voilà, en faire des prestations.
Je voudrais vous citer, il y a deux jours, la société Johnson, pour faire face au virus Zika, a annoncé qu'elle allait faire un don d'au moins 15 millions de dollars pour fournir des produits anti-moustiques. Hein. C'est le premier fabricant mondial de produits antiparasitaires. Et elle va s'associer là à des ONG internationales, des fondations sanitaires, donc on est bien dans la discussion, pour fournir des anti-moustiques. Elle fera également des dons en espèces pour couvrir les frais de logistique et de distribution. On sent bien, Dominique Kerouédan, dans ce genre d'exemple, qu'on est à la limite du ok, on est dans des dons, mais on comprend bien qu'est-ce que ça peut profiter à Johnson. Et puis après, quelle va être la liberté pour étudier? Certes, d'une part, quel est l'impact de Zika sur la santé, mais aussi des produits justement anti-moustiques qui peuvent aussi présenter des dangers pour la santé, Dominique Kerouédan.
Oui, mais on est encore dans des logiques de produits et de réponses par des produits et de l'industrie. Aucun des États maintenant, ni même dans les pays du Nord, ne peut soutenir une politique de santé qui est basé sur le curatif et la réponse par les produits. Alors l'innovation, elle est importante, mais compte tenu des évolutions démographiques, de vieillissement de la population, de croissance démographique sans précédent dans les pays africains, toutes ces politiques, il doit y avoir un renversement absolu des politiques sanitaires en direction de la prévention, du dépistage précoce des maladies. En discutant avec l'ambassadeur, il y a quelque temps, de l'ambassadeur du Niger auprès des institutions européennes, je prenais des nouvelles de son programme de lutte contre le sida au Niger où j'avais travaillé. Il m'a répondu, moi, mon problème au Niger, c'est le diabète. Donc, vous voyez, on doit revoir un petit peu les questions des priorités, et les maladies chroniques deviennent dans ces villes africaines et même dans les pays dans leur ensemble des priorités absolues, l'hypertension artérielle, le diabète, et là il n'y a pas du tout de financement, les besoins ne sont même pas.
Ah, oh là là, j'ai l'impression qu'on a perdu la ligne avec Bruxelles. Est-ce que vous m'entendez encore, Dominique Kerouédan? Non, on a perdu Dominique Kerouédan. Dommage, je voulais un mot de conclusion sur justement, est-ce qu'elle est entendue? Alors, je vais peut-être vous poser cette question à vous aussi, Auriane Guilbault, mais quand vous dites tout ça, parce que vous dites la même chose aussi que Dominique Kerouédan, vous arrivez à vous faire entendre? Vous êtes des ovnis?
Non, c'est difficile, mais on voit bien le débat. Également, ce qui est important, c'est de se demander quels sont, dans le fond, les garde-fous, les politiques de gestion des conflits d'intérêts, par exemple, qui peuvent être mises en place pour que la coopération entre les différents acteurs se passe bien. Ces débats-là, ils ont lieu en ce moment à l'OMS. Hein, ils sont d'ailleurs assez conflictuels. Tous les États sont pas d'accord là-dessus, mais l'OMS, en ce moment, est en train d'essayer de finaliser un cadre pour gérer ses relations avec les acteurs non étatiques.
Donc avec les entreprises et les fondations.
Et les fondations et les ONG. Et justement, et là, il y a toutes ces questions ressortent, hein, notamment de est-ce qu'on considère une entreprise qui a des buts lucratifs comme une ONG qui n'en a pas. Voilà, c'est vraiment aussi là-dessus qu'il faut avancer.
Et donc ces questions, elles se posent réellement. C'est-à-dire, c'est pas simplement dans des cercles restreints.
Non, au niveau
international, il y a une vraie réflexion sur ces sujets-là.
Oui, il y a une vraie réflexion politique, et les États, hein, sont conscients qu'il faut avancer là-dessus.
Boris Martin, juste un petit mot de conclusion parce qu'il nous reste 20 secondes.
Oui, je dirais la même chose pour les ONG. Mmh. Elles doivent effectivement se saisir de cette question-là. Elles ne le font pas assez. Il y a une sorte d'unanimisme ambiant un petit peu qui règne dans le milieu. Une fatalité, les entreprises arrivent.
On a besoin de financement, on en profite, mais on ne réfléchit pas
ça
forcément à quel
est l'impact.
Ça manque de
réflexion globale.
Voilà, il faudrait réfléchir à pourquoi justement ces entreprises financent, quelles sont la question des conflits d'intérêts dont vous avez parlé. Merci beaucoup à tous les trois d'être intervenus, Dominique Kerouédan, Auriane Guilbault, Boris Martin. Et lundi, on parlera d'un tout autre sujet, beaucoup plus léger, des obstacles à l'amour. Un téléphone, si vous souhaitez participer, le 33 1 80.